بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة. Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, le dimanche, le 9 du mois d'Al-Qa'da de l'année 1446 de l'Hégire, correspondant au 26 avril 2026. Nous nous retrouvons, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour poursuivre ensemble notre lecture du livre de Cheikh Al-Allama Hafid Al-Hakami, qu'Allah lui fasse miséricorde, intitulé « A'lam al-sunnati al-manshura », dans lequel il a posé 200 et quelques questions au sujet de la croyance authentique, auxquelles il a donné réponse dans ce livre d'une manière simplifiée. On s'est rendu à la question, la 123e question de ce livre, dans laquelle il a dit « Ma dalil al-sirat » Quelle est la preuve de le Coran au sujet de As-Sirat. As-Sirat, c'est ce pont qui est dressé sur le feu de l'enfer et que toute personne doit traverser avant d'arriver au paradis. Comme vous savez, l'enfer, c'est un fossé extrêmement profond. Et par-dessus, il y a un Sirat, un pont. Et on va voir sa description, comme ça a été rapporté dans As-Sunna. Et que toute personne doit traverser avant d'arriver au paradis. Et le paradis se trouve à l'autre extrémité. Allah Azza wa Jal dit au sujet de Sirat, wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jithiya. Dans le sens approximatif, Allah subhanahu wa ta'ala dit: il n'est aucun d'entre vous qui ne le traversera pas. Il n'y traversera le pont, qui ne passera pas par l'enfer, en traversant ce pont. C'est là un arrêt irréversible de ton Seigneur. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala sauvera ceux qui auront été pieux et il laissera dans l'enfer les injustes à genoux. Wa qala ta'ala yawma tara al-mu'minina wal-mu'minati yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi-aymanihim. Ça c'est dans sourate Al-Hadid également. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de l'enfer, de l'au-delà et de quelques événements qui auront lieu ce jour-là. Il a dit, dans le sens approximatif, le jour où tu verras les croyants et les croyantes précédés de leur lumière, car ce jour-là, chacun aura sa propre lumière. Et la règle de base, c'est l'obscurité et les ténèbres. Il n'y a pas de lumière. Chacun aura sa propre lumière. Et cette lumière, bien évidemment, sera proportionnelle à son degré de foi. Le jour où tu verras les croyants et les croyantes précédés de leur lumière qui se déploiera au-devant d'eux et sur leur droite, il leur sera dit « Heureuse nouvelle pour vous, aujourd'hui, il y aura pour vous des jardins sous lesquels coulent des rivières et vous y séjournerez pour l'éternité. Voilà le succès suprême. » Donc, que signifie le fait que toute personne devra passer par l'enfer? Si on traduit littéralement ce verset, « Wa in minkum illa waridha », que chaque personne doit passer par l'enfer. C'est ça le sens apparent. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie, yani, comme ça a été expliqué par le Nabi alayhi salam, c'est pas que chacun va devoir yani, passer par l'enfer dans le sens où il va entrer en enfer. Lakin, il va passer par-dessus, sur ce pont. Car ce pont est dressé sur le feu de l'enfer. Et à sa droite et à sa gauche, il y aura des crochets du feu qui vont prendre ceux à qui Allah a donné l'ordre de prendre. Et ça, c'est mentionné dans le hadith que nous allons lire tout à l'heure, Inch'Allah. Donc, ce que signifie que toute personne devra passer par l'enfer, c'est ce passage sur le pont. Car tout le monde passe par le pont. Et il sera sauvé de tomber dans l'enfer ceux qui auront at-tawhid, qui auront at-tawhid, contrairement aux mécréants et aux grands hypocrites et aux idolâtres qui tomberont tous dans le feu de l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet: وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا. Les mécréants seront conduits vers le feu de l'enfer en groupe. Par rapport à la description du pont, dans la question suivante, beaucoup de hadiths ont été rapportés. Car la foi au pont est que c'est un pont réel, non pas comme on dit certains innovateurs et certains égarés au niveau de la croyance, qui ont dit que ce n'est pas un pont matériel, ce n'est pas un pont réel. C'est seulement une signification, un sens. Et la réalité, la croyance de Al-Sunnah al-Jama'a, ce pont est réel. Et regardez le nombre de hadiths qui ont été rapportés à son sujet et sa description claire et explicite. Dans Hadith al-Shafa'a, selon Hadith dans lequel le prophète alayhi sallam parle de l'intercession, il a dit « يُؤْتَى بِالْجِسْرِ فَيُجْعَلُ بَيْنَ ظَهْرَي جَهَنَّمْ » Allah subhanahu wa ta'ala ordonnera à ce qu'on ramène ce pont et qu'il soit placé par-dessus l'enfer, la gêne. Les compagnons ont dit au messager d'Allah, « Mal jisr, c'est quoi le pont ?» Les sahaba ont compris ce que ça veut dire, « jisr », un pont. Lakin, ils ont voulu connaître sa description. Ils lui ont dit, « C'est quoi ?» Il leur a dit, « Madhadatun mazillah. » Madhadatun mazilla. C'est un pont extrêmement glissant sur lequel le pied ne peut pas tenir. Alayhi khatatifu wa kalalib. Et il a été décrit également le pont comme étant aussi fin que le cheveu et aussi aiguisé que l'épée. Et en plus, il est glissant. Ça veut dire qu'il ne tiendra sur ce pont et il ne le traversera que celui à qui Allah permettra ceci. C'est pour ça qu'il y en a qui vont le traverser comme c'est mentionné dans ce hadith. Avant d'y arriver, il a dit, alayhi khatatif wa kalalib. Autour de ce pont, il va y avoir des crochets du feu de l'enfer. Le feu de l'enfer a des crochets. Et des épines également. Et il leur a donné quelque chose qui ressemble à ces crochets que les compagnons connaissaient, un arbre qui s'appelle Sa'dan. Ensuite, il a dit Yamurru al-mu'minu 'alayha kal-barqi. Le croyant, il va traverser ce pont comme l'éclair. Et d'autres comme le vent, et d'autres comme les meilleurs des chevaux, les chevaux les plus rapides, et d'autres comme à la vitesse des chameaux, et d'autres seront sauvés et préservés, et d'autres seront touchés et blessés, mais finalement sauvés. Et la dernière catégorie, ceux qui vont tomber dans le feu de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Et le dernier qui va traverser le pont, c'est Ajib, de l'histoire de ce dernier homme a traversé le pont. Après lui, il n'y a plus personne qui traverse le pont. Donc c'est l'homme qui a le niveau de foi le plus bas parmi les gens du paradis, qui va traverser ce pont. Donc ça veut dire que c'est un mouahid. Celui qui n'a pas tawhid, il ne traverse pas le pont. Le mushrik, il va directement, il sera conduit directement vers le feu de l'enfer. Lakin, ce dernier homme qui va le traverser, il aura une lumière au niveau du pouce. Yani au niveau de... le pouce, c'est pour la main. Pour le pied, had les orteils, comment on appelle had, le grand orteil ou la manche. C'est à peu près ça. Il aura un éclairage à ce niveau seulement. Et subhanallah, il va s'accrocher avec ses deux mains et ses deux pieds sur le pont. Et à chaque fois, il est à deux doigts de tomber. Il s'accroche. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il va le traverser. Finalement. Il va traverser le pont finalement. Et une fois qu'il va le traverser, il va se prosterner, il va louer Allah subhanahu wa ta'ala. Et il sera d'une reconnaissance pour Allah. Il voit qu'Allah lui a accordé une ni'ma qu'il a accordée à personne d'autre, en dehors de lui. Tellement il voit l'immensité de cette faveur d'être sauvé. Il était proche de tomber à plusieurs fois. Et c'est le dernier de ceux qui vont entrer au paradis. Et comme dit l'imam al-Qayyim, il n'y a pas de dernier parmi eux en réalité. Le fait d'être sauvé, c'est une ni'ma immense du feu de l'enfer. Et cet homme, c'est le dernier qui sera sauvé. Nasallallah salam al-afir. Donc voilà les gens, chacun va traverser ce pont à une vitesse qui correspond à sa vitesse, à la vitesse qu'il avait dans Dunya, dans le bien. Vous voyez que les gens, ils n'ont pas la même vitesse pour accomplir le bien dans cette Dunya. Si on prend un exemple, et ça vous pouvez l'appliquer à toutes les adorations que vous faites dans une journée. Regardez l'exemple de la salat en groupe. Les gens n'arrivent pas tous à la même heure pour la salat. Il y en a qui arrivent, par exemple, pour Dhuhr, qui arrivent avant l'adhan. Saïd ibn Musayyib, il dit qu'il n'a jamais entendu l'adhan dans sa vie à l'extérieur de la mosquée. Ça, c'est un tabi'i. Il s'appelle Saïd ibn al-Musayyib. C'est parmi les chouyours de l'imam Malik. Ils disent c'est un des meilleurs tabi'in. Si ce n'est pas le meilleur tabi'i. Et tabi'in, c'est la génération qui sont venus après les compagnons. Qui ont vu des compagnons, mais qui n'ont pas vu le prophète, alayhi salam. Et cet homme, il avait énormément de science. Ils disent qu'il avait plus de science que quelques sahaba. Lakin, notez bien que le degré de sahabi, personne ne peut l'atteindre. Quelle que soit sa science, quelles que soient ses œuvres pieuses. Lakin, au niveau de la science, ils disent qu'il avait plus de science que certains sahabas. Donc, les gens ne viennent pas tous à la même heure à la mosquée. Il y en a qui se préparent bien avant l'adhan. Il y en a qui arrivent avec l'adhan et qui font les quatre unités de Rawatib avant salat obligatoire. Et ainsi, ils protègent leur salat obligatoire de tout manquement. Ils viennent, ils vont faire une salat bien avant, comme ça ils sont bien préparés pour une salat obligatoire. Contrairement à quelqu'un qui vient en courant à la dernière minute, et a ni le temps de prendre son souffle et de retrouver sa quiétude et sa sérénité, peut-être que l'imam va faire salam. Et d'autres, ils viennent avant l'iqama. Lakin, il n'a pas le temps de faire nawafil. Et d'autres, ils viennent pendant la première raka'a, deuxième raka'a, troisième, quatrième. Il y en a qui viennent après salam de l'imam. Et tous, ils sont dans le bien. Lakin, ce n'est pas les mêmes degrés. C'est pour ça, la vitesse avec laquelle tu traverses ce pont sera proportionnel à ta vitesse dans ce bas monde vers les œuvres pieuses. Il n'y a pas de secret. Et tu vas traverser ce pan de la même manière que tu traverses le pan qui existe dans cette dunya. Dans Surat al-Fatiha, qu'est-ce qu'on demande à Allah? On lui dit « Ihdina s-sirat al-mustaqim ». C'est quoi ce sirat? C'est quoi ce pont? C'est le même nom. C'est un sirat qui est droit. Ce sirat, c'est l'obéissance à Allah, l'éloignement des interdits. C'est la piété, c'est la crainte d'Allah. De la même manière que tu seras sur ce sirat aujourd'hui, tu seras sur le sirat de l'akhirah. Et le sirat de dunya, effectivement, il est abstrait. Il est immatériel. Lakin, celui de l'akhirah, c'est un sirat matériel, réel. Là, il ordonnera à ce qu'on ramène le sirat et le placer sur le feu de l'enfer. Et les anges vont s'exécuter. Également, ça me fait penser à un autre point. Là, il y a plusieurs points comme ça où tu peux faire la comparaison entre dunya et l'akhirah. Et ça te rapproche l'essence. Yani tous, vous savez que tous les croyants auront une station devant Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'au-delà. Tous les croyants, tous les muahidin auront une station devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le dunya, nous avons une station également devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est laquelle? Il y a des frères qui ont une télécommande à distance, ils activent le son. Comme ça, ils répondent sans bouger. Taïb, n'aab, tchadda l'akhi, Abdullah. Ah, vous avez laissé le son. Taïb. C'est quoi cette station, votre dunya?
As-salat.
As-salat. Ahsant. Masha'Allah. As-salat. Yannick, vous savez que quand on fait salat, on rentre dans salat, on dit Allahu Akbar, on est directement devant Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il convient à sa grandeur et sa majesté, et d'une manière réelle. Ce n'est pas une métaphore, Allah. C'est réel. Lakin, le comment, on ne sait pas. Car Allah n'est semblable à aucune de ses créatures dans aucun de ses attributs. Lakin, c'est réel. Allah, il est devant toi quand tu dis Allahu Akbar. Jusqu'à ce que tu tournes ton visage, ta tête, ou là tu tournes ton corps, Allah, il se détourne de toi également. Lakin, tant que tu es dans ta salat, devant Allah subhanahu wa ta'ala, Allah est devant toi, subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est rapporté dans plusieurs hadiths. Donc, de la même manière que tu seras dans cette station de dunya qui est la salat, si tu as le khushu', tu as la crainte d'Allah, tu seras, par contre ici c'est inversé. Plus tu auras de crainte dans la station de dunya, moins tu auras de peur dans la station de l'akhirah. Plus tu auras de sérénité et d'apaisement, tu es devant Allah. Tu vois le paradis, tu vois l'enfer et tu es apaisé. Et les gens, ils sont dans une panique extrême. Ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont aller. Et toi, tu es apaisé, tu es serein. Par rapport, et ça sera relatif à ce khushu' que tu auras dans dunya, dans ta salat. Et le khushu' ce n'est pas une affaire qui se travaille en une journée ou là, en une semaine ou là, en une année. Ou là. C'est quelque chose qui se travaille toute la vie. C'est pour ça la meilleure chose avec laquelle tu te rapproches d'Allah. Après la salat, après le tawhid, c'est quoi? C'est la salat. Le Nabi a été interrogé, comme dans le hadith Abdullah ibn Mas'ud, Ayyul a'mali ahabbu ilallah. Quelles sont les œuvres les plus aimées par Allah? Il a dit salat en début de son temps. C'est la première chose qu'il a citée. Vous imaginez, il a cité le jihad, le combat dans le sentier d'Allah, où tu exposes tes biens, ton âme, ta personne, à un danger immense. Il vient bien avant, bien après. Il vient bien après la salat. Naam. Pourquoi? Ibn Hajar explique dans Fath al-Bari pourquoi c'est ainsi. Le combat dans le sentier d'Allah, tu peux rencontrer un croyant qui n'a pas un niveau de foi très élevé. Tu lui expliques les mérites, les vertus. Et bien évidemment, quand c'est dans le cadre légiféré, c'est pas les attentats terroristes, ça c'est pas le djihad. Ça c'est éloigner les gens de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas parce que c'est un kafir que tu peux le tuer. Ça c'est des ignorants et des ignorances qui n'ont rien à voir avec l'islam. Ça n'existe pas en islam. Est-ce que Nabi alayhi salam a déjà fait ça? Est-ce qu'il n'y avait pas des koufars autour de lui? Ou il leur faisait da'wah? Il leur montrait le bon comportement et les vertus, les mérites de l'islam. Ou là, il les attendait au coin de la rue pour eux. Non. Had, les attentats terroristes, c'est des actes criminels qui n'ont rien à voir avec l'islam. Donc, quand c'est dans le cadre légiféré, nous savons que c'est le summum de la religion. Quand c'est dans le cadre légiféré, avec les conditions et ainsi de suite. Là, malgré cela, tu peux rencontrer quelqu'un qui n'a pas de niveau de foi élevé, tu lui expliques, il y a une occasion qui se présente, qui correspond, qui remplit toutes les conditions, et il le fait pour que la parole d'Allah soit la plus haute, la plus élevée, et il obtient le mérite de cet acte extrêmement méritoire dans l'islam. Contrairement à la salat. On parle aujourd'hui de la salat et que c'est la meilleure adoration qui existe en islam après tawhid. Il n'y a pas mieux. Tu ne peux jamais te rapprocher d'Allah avec quelque chose meilleur que la salat après l'unicité d'Allah. Mais malgré cela, tu es motivé aujourd'hui, tu fais les 5 salawat à la mosquée, mashallah, tu viens à l'heure, lakin au bout d'une semaine, ou là, même avant, ça dépend des personnes. Au bout de 2 jours, certains au bout d'une semaine, d'autres au bout d'un mois, ils commencent à faiblir. Ils ratent quelques salawat. Donc, c'est un effort continu durant toute la vie. C'est un jihad de toute la vie. C'est pour ça, ça dépasse de loin le combat dans le sentier d'Allah, dans le mérite. Et donc ça, c'est les catégories des gens sur le pont. Al-Munafiqin, les grands hypocrites, ils tomberont directement. Al-Mushrikin, le Kuffar également. Et les croyants, il y en a qui vont le parcourir comme l'éclair. Et d'autres comme le vent. Et d'autres comme les chevaux très rapides. Et d'autres comme quelqu'un à dos de chameau. Et ainsi de suite. Et il y en a qui vont le traverser en courant. Il y a un autre hadith où il y a plus de catégories qui s'en citent. D'autres, ils vont le traverser en courant. D'autres en marchant. D'autres en rampant. Jusqu'à arriver à ce dernier qui va le traverser de la manière qu'on a vu tout à l'heure. Et il y en a qui seront sauvés directement. Pas touchés par les flammes. D'autres seront touchés mais sauvés finalement. Et les derniers vont tomber. C'est des mouahidines qui auront commis des péchés desquels ils ne se sont pas repentis ou qui auront délaissé et négligé des obligations desquels ils ne se seront pas repentis durant leur vivant, car quand tu te repentis, le repentir efface tout péché. Le repentir sincère. C'est quoi les conditions d'un repentir sincère? Un autre volontaire. تفضل اخي القمري عبد الله القمري او القمري والله هذه سا فو با اونتري دون ما تيت لان علاش je vous ai déjà expliqué que j'ai vu la divergence يعني je sais que dans le pays ils disent le qamari et il y a un homme de science qui a dit ce qui est juste c'est le qamari c'est tiré de la verdure et non pas de la lune. Lakin, après, on m'a rapporté que dans le pays, les autorités punissent celui qui dit ça. Donc, on va rester sur l'appellation officielle, Al-Qamari.
Al-Ikhlas.
Al-Ikhlas. Il y a une idée de faire le repentir sincèrement pour Allah.
Regretter.
Le regret. Le regret, à lui seul, est un repentir. Comme a dit le Nabi alayhi salam. An-nadamu tawbah. Le fait de regretter profondément, ça c'est déjà un repentir. Taïb, le regret,
de laisser le péché.
Le délaisser immédiatement. Quelqu'un qui fume, il veut se repentir de la cigarette, il ne faut pas qu'il garde le paquet dans la poche. Il faut qu'il l'écrase et il ne l'offre pas à quelqu'un d'autre, à un autre fumeur. Ce n'est pas une bonne action. C'est une mauvaise. Il l'écrase, il le détruit, il le jette. Naam, arrêter le péché instantanément. Quatrièmement, avoir l'intention. Naam. Alors, quatrièmement, d'avoir la ferme intention de ne plus jamais retomber dans ce péché. Et cinquièmement,
si on a commis une injustice, de régler.
Si c'est vis-à-vis d'une créature. Les quatre sont suffisants pour quelqu'un qui commet qui fait du tort à lui-même, un péché qui le concerne. Il a menti, il a un péché qui le concerne. Il a regardé quelque chose qu'il n'a pas le droit de regarder. Oulahachi. Lakin, s'il fait du tort à autrui, il doit réparer le mal en plus. Car Allah ne pardonne pas ça. Ça, c'est entre les créatures. Il faut demander pardon à la créature. Lakin, il y a des cas où le péché, si tu vas demander pardon, par exemple, quelqu'un, t'as fait le riba à quelqu'un, t'as parlé en mal de lui pendant son absence. Même si t'as dit des vérités. Il y en a qui pensent que le riba, c'est quand tu dis des mensonges. Le riba, c'est quand tu dis des vérités et des défauts réels chez ton frère en son absence. Et si tu vois des défauts chez ton frère en islam, tu vas le voir et tu le conseilles entre toi et lui. Et tu gardes ça discret entre toi et lui. Tu le couvres et tu lui dis, tu lui fais le nasir. On ne se tait pas sur les erreurs des autres. Lakin, c'est comme ça que le musulman fait. Amma, tu viens devant les autres et tu leur dis, un tel, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Ça, ça s'appelle la médisance, le riba. Et c'est parmi les grands péchés. Et d'ailleurs, son châtiment, il commence dans la tombe, avant l'akhir. C'est parmi les péchés qui seront punis dans la tombe, avant l'akhir. Tellement c'est grave. Il y en a des choses comme ça, l'islam, il les combat d'une manière très forte. Alash, car ça va bafouer un fondement très important en islam, c'est l'union des musulmans. Ça, il n'y a pas de tolérance au niveau de ces péchés. Donc, hadawul muslim, quand il voit des erreurs chez son frère, il va le voir. Là, il faut savoir que celui qui commet les péchés en public, il n'a pas de. Il n'y a pas de riba à son égard. Quelqu'un qui fume devant tout le monde, si tu dis qu'il fume, tu n'es pas tombé dans le riba. Mais les savants disent qu'il ne faut pas prendre l'habitude et l'habitude de parler des défauts des gens, sauf quand il y a un intérêt. Car aujourd'hui, tu parles de quelqu'un qui le fait devant tout le monde, ce n'est pas une riba. Naam, lakin demain, tu vas le faire par rapport à quelqu'un qui le fait d'une manière cachée. Et on doit couvrir le musulman tant qu'il ne se dévoile pas par eux-mêmes. C'est pour ça le musulman qui fait des péchés. En cachette, c'est quelqu'un dans lequel il y a du bien. Le problème, c'est quand il fait le péché devant le Nas. Il n'a honte ni de son créateur, ni des créatures. Ada, il a une faible pudeur. Et Allah, il pardonne à tout le monde, sauf à cette catégorie-là, de ceux qui font les péchés devant les gens. Et en plus de faire le péché lui-même, il incite par son acte les gens à faire les péchés. Et il banalise le péché. Contrairement à quand il est fait en cachette, ça reste quelque chose de grave. Lakin, c'est pour ça, vous voyez les gens qui vivent dans des pays où les gens font tous, ou la presque, dans des pays de kufr, la plupart des gens font un péché, ça devient normal, banal. Personne ne va te reprocher de le faire. Et d'avoir la ferme intention de ne plus jamais tomber dans ce péché. Taïb, si quelqu'un a rempli les conditions, et après il est retombé dans le même péché, est-ce que ça invalide son repentir à notre volontaire? Tadali Amusli.
Non, ça n'invalide pas.
Ça n'invalide pas. Ça reste un repentir valide. Il doit faire un nouveau repentir pour ce nouveau péché. chaque péché duquel tu te repens, un repentir sincère, c'est effacé. Andallah. Lakin, rappelez-vous qu'il doit avoir la ferme intention de ne plus jamais retomber. C'est pas, il se dit, on va voir, on va essayer. Non, Khas, pour lui, il est déterminé à ne plus jamais retomber dans le péché. C'est ça le repentir sincère. Après, s'il faiblit, le croyant, il peut faiblir. Et qui ne faiblit pas parmi les croyants ? Là, le croyant, la différence entre les croyants, c'est la vitesse avec laquelle ils reviennent vers Allah. Plus sa foi est forte, plus il va revenir vite vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a décrit ses prophètes ainsi. Awwab, c'est celui qui se repent rapidement, qui revient rapidement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est la description de Sirat. Dans le hadith d'Abi Saïd, radiyallahu anhu, il a dit, on m'a rapporté que le pont est plus fin que le cheveu et plus aiguisé que l'épée. Comment quelqu'un il va tenir sur quelque chose comme ça? D'abord, les gymnases ou ils leur font une corde. À peine il fait 6 mètres, il tombe. Imagine ça, c'est sur le feu de l'enfer, immense. Tu ne tiendras qu'avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, selon ce que tu auras fait dans cette dunya. De la même manière que l'épreuve de la tombe. C'est pour ça que les hommes de science disent, l'épreuve de la tombe, c'est une épreuve en apparence, mais en réalité, c'est le résultat de ta vie. C'est le fruit de ta vie. C'est pareil ici. Ici, tu ne vas pas t'entraîner pour traverser le pont. Mais plutôt, tu t'entraînes pour être dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il a parlé d'un nouveau point qui est al-qisas, yani le jugement entre les créatures et que les droits doivent être remis aux ayants droit. Il a dit quelle est la preuve à ce sujet dans le Coran. Parmi les preuves, Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah la yadhlimu مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. Donc parmi les preuves du Coran au sujet de ce point de l'qisas, yani le jugement qui sera fait entre les créatures. Une fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala jugera les créatures, chacun va devoir rendre les droits aux créatures auxquelles il a fait du tort et auquel il a causé des préjudices dans cette dunya sans se repentir. Ça, c'est une étape indispensable. Indispensable. Donc, Allah dit, subhanahu wa ta'ala, dans le sens approximatif, vous savez que le Coran ne se traduit pas. Ce qui est traduit, c'est l'essence. C'est un des sens. Donc le Coran, il est indispensable d'avoir la langue arabe pour le comprendre correctement. Les traductions, ce sont des traductions rapprochées de un des sens. Allah dit dans le sens, Allah ne laisse jamais personne, ne serait-ce que du poids d'une toute petite fourmi. Al-dharra, c'est la toute petite fourmi, et ce n'est pas l'atome. L'ana les sahaba ne connaissaient pas l'atome. L'atome, dernièrement, ils l'ont appelé dharra. Mais ça, c'est un terme que ce sens n'était pas connu par sahaba. Et le Coran a été révélé dans la langue des compagnons. Dans la langue des compagnons. Et cette expression, comme le poids d'un grain de moutarde, le poids d'une toute petite fourmi, d'un grain de poussière, tout ça, c'est des expressions que les Arabes utilisaient pour indiquer quelque chose qui est infiniment petite. C'est des expressions qu'ils utilisaient comme ça. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens, Allah ne laisse jamais personne, ne serait-ce que du poids d'un d'une toute petite fourmi, le bienfait, il le double. Yani al-hasanat, Allah les double. Et de sa part vient la plus grande des récompenses. وَيُؤْتِي مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. Dans l'autre verset, Allah dit الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ. Ce jour-là, chaque âme sera rétribuée selon ce qu'elle aura fait. Aucune injustice ne sera commise ce jour-là. Aucune injustice. Toutes tes bonnes actions, tu les trouveras. Aucune injustice. Et tu ne trouveras pas une seiyya que tu n'as pas commis. Aucune injustice ne sera commise ce jour-là. Tu ne trouveras que ce que tu as fait durant toute ta vie. Tu ne récolteras que ce que tes mains ont semé. Hada huwa la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala et son équité absolue. Et ce point a été abordé également, le qisas. Le qisas, ça se dit de la loi du talion. Mais ce qui est voulu par le qisas ici, ce n'est pas la loi du talion dans le bas monde. C'est dans l'au-delà. Yani, de rendre les droits aux ayants droit, entre les créatures. À ce sujet, le Nabi Al-Sallam a dit Awwalu ma yuqda bayna an-nasi fi ad-dima. La première chose dans laquelle il sera tranché entre les créatures, c'est le sang, c'est-à-dire le sang qui a été coulé sans droit. Le meurtre, les crimes, comme les attentats criminels. Ça, c'est la première chose dans laquelle Allah tranchera entre les créatures. Quelle est la première chose sur laquelle Allah nous jugera par rapport à nos œuvres? Toi, Dalakhi, tout au fond. Avec As-salat. Ahsant. La première chose au sujet de laquelle nous serons jugés, c'est la salat. C'est-à-dire au sujet de tes œuvres et du bien que tu as fait, qui te concerne toi seulement. Là, la première chose dans laquelle il sera tranché, et ça, c'est par rapport aux choses qui concernent les autres créatures. C'est le sang qui a été coulé sans raison valable. Et ça montre qu'il existe bien un qisas. Et dans l'autre hadith, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man kana indahu mazlamatun li akhih, falyatahallal minhu al-yawm. » Celui qui a fait du mal, celui qui a fait du tort à son frère, qui lui demande pardon aujourd'hui. فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِنَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ. Car dans l'au-delà, il n'y aura ni dinar, ni dirham. La devise changera ce jour-là. C'est plus l'argent et les biens. Car tout ça sera délaissé dans ce bas-monde. Tu quittes le bas-monde sans emporter avec toi tes biens. Tu laisses tout. T'emmènes avec toi seulement tes œuvres. C'est ce que tu vas trouver en Allah. Donc, Nabi Al-Sallam a dit qu'il le fasse, qu'il lui demande pardon. Si tu fais du mal, si tu parles en mal de ton frère, Naam, j'ai oublié de terminer tout à l'heure. Anna, si tu dis du mal de ton frère, des fois, ça ne convient pas d'aller le voir et de lui dire pardonne-moi, j'ai dit de toi telle et telle et telle chose. Car ça peut provoquer une coupure entre toi et lui. Il peut t'en vouloir à vie. C'est pour ça que les hommes de science disent dans ce cas-là, la règle c'est que tu dois toujours lui demander pardon. Sauf dans ce cas-là, car ça peut provoquer un mal plus grand. Ils disent, comme tu as dit du mal de lui, tu dis du bien de lui. Et tu demandes à Allah de lui pardonner. Et bien, bi'idhnillah, yani, ça permettra d'effacer ce péché. Et si tu penses qu'en allant le voir et lui parler, ça ne va pas provoquer une coupure entre toi et lui, c'est ce qu'il faut faire, en premier. Et des fois, tu n'as pas besoin de détailler et de dire, j'ai dit de toi telle et telle et telle et telle chose. Tu peux dire, Shaitan m'a induit en erreur et j'ai dit des choses qu'il ne fallait pas dire à ton sujet. Alhamdulillah, j'ai réparé le mal que j'ai commis. je te demande de me pardonner. Si tu vois que tu peux le faire de cette manière, fais-le. Car c'est ça la règle de base. Sinon, tout mal que tu as fait à une personne, tu dois le réparer, fait dunya. Et si tu ne le fais pas, fait dunya, ça sera réparé, fait l'akhira. Par contre, ce jour-là, c'est plus les euros, c'est plus les dinars, c'est plus les dirhams. Ce jour-là, c'est le hasanat et le seyyiat. Il prendra de tes péchés ce qui compense le mal que tu lui as fait. Selon le décret et la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tes hasanat ne sont pas suffisantes, alors il va te donner de ses seyyiat. Et tu seras conduit par la suite vers le feu de l'enfer. Et ce jour-là, personne ne pardonne à personne. Même ta mère ne te pardonnera pas ce jour-là. C'est pour ça, c'est plus facile de le faire fi dunya. Même si tu fais du mal à quelqu'un, tu vas le voir en général, tu arrives avec quelque chose qu'il aime, un gâteau, là, une pâtisserie, ou la chihaja, halwa, la canne mgribi avec le halwa d'Yales Miza. Là, tu l'invites à boire un thé, ou la chihaja. Al-Mohim, tu choisis les choses qu'il aime, et tu lui dis, oula, bhal d'abord en général entre les jeunes, tu l'invites à manger un grec. J'ai oublié ça, là, ça fait longtemps. ça fait plaisir. Tu vas bousiller sa santé, là, il aime bien. Machi mouchkil. Et donc, Annie, tu lui proposes quelque chose et tu l'aides à accepter et à te pardonner. Avant d'arriver au jour où le pardon ne se fait qu'avec le hasanat et le seyyiat. Et ce jour-là, tu auras besoin de la toute petite hasana pour espérer être sauvé du châtiment d'Allah. Alors, t'imagines si en plus tu prends seyyiat. Cet homme-là, le prophète l'a appelé comment? Qui prend seyyiat en plus? Naam. Tu vas aller à un musulman.
Le perdant.
Le perdant? Autre chose? Autre réponse? Allez, c'est un perdant. Il n'y a pas de doute. Naam, tu vas aller à Abdallah. Il l'a appelé comment? Al-Muflis. Le faillitaire. Hadi, il y a la vraie faillite. La vraie faillite, c'est pas que ton entreprise ferme ou là, tu perds ton chiffre d'affaires. Là. La vraie faillite, c'est de venir demain devant Allah subhanahu wa ta'ala avec des hasanat comme des montagnes. T'as fait qiyam al-layl, t'as fait salawat, t'as fait sadaqat, t'as fait zakat, t'as fait le pèlerinage, t'as fait énormément de bien. Tu viens avec des hasanat comme des montagnes. Là, quand tu viens en ayant insulté un tel, en ayant fait de la médisance, en ayant fait de la calomnie, en ayant frappé un tel, en ayant hadial, et tu rends à chacun son droit jusqu'à te retrouver avec zéro hasané, en plus avec des montagnes de seyyiat. Nasalullah salam al-afiyah. C'est pour ça, la clé du succès de l'islam, c'est de contrôler ta langue. Et d'emprisonner, comme a dit Abdullah ibn Mas'ud, le grand compagnon, d'emprisonner ta langue. De l'emprisonner et de réfléchir 7 fois avant de parler. Au moins, le kuffar, il dit ça. De bien réfléchir avant de parler. De bien réfléchir avant de parler, comme a dit l'imam Malik. De bien réfléchir avant de parler et de se poser la question. Est-ce que ce que je vais dire plaît à Allah ou non? Si ça plaît à Allah, dis-le. Si tu doutes, tais-toi. Abstiens-toi, c'est meilleur. Si c'est un mal, ne le dis pas. La langue, Mu'ad radiallahu anhu, quand il a demandé, Mu'ad, bien évidemment, vous savez, c'est le plus grand savant de la Ummah. Quand il a demandé au prophète, les voies du paradis, Nabi lui a indiqué beaucoup d'œuvres. Il lui a indiqué Qiyam al-Layl, il lui a indiqué Salat, il lui a indiqué Sadaqa, l'aumône qui éteint la colère d'Allah. Il lui a indiqué Qiyam al-Layl, il lui a indiqué beaucoup de bien. Et à la fin, il lui a dit, ô Mu'ad, veux-tu que je t'indique ce qui te permet d'atteindre tout ce que je t'ai dit? Il lui a dit, si, ô messager d'Allah. Il lui a dit, fais attention à ça. Nabi Aslam a sorti sa langue. Il lui a dit, fais attention à ça. Mu'ad s'est étonné. Il lui a dit au messager d'Allah, est-ce qu'on sera jugé par rapport à ce qu'on dit? lui a dit que ta mère te perde. Et ça, c'est une expression que les Arabes utilisent pour attirer l'attention de quelqu'un. Ils ne veulent pas le sens réel. Yani, bhalla, je te dis, mais écoute. Mais réveille-toi. Fakilatka ummuka ya Mu'ad. Il lui a dit, est-ce que les gens sont jetés dans le feu de l'enfer à cause d'autre chose que ce qu'ils sortent de leur langue, ce qu'ils disent et ce qui sort de leur bouche? Et vous savez, ce qui envoie le plus en enfer, c'est la langue et les parties intimes. Hada, c'est ce qui envoie le plus en enfer chez les mouahidin. Et parmi les plus grandes causes du paradis chez les mouahidin, c'est la piété, la crainte d'Allah et le bon comportement. C'est parmi les choses qui envoient le plus, les plus grandes causes du paradis. Pour ça, le Nabi a dit à un compagnon, garantis-moi ce qu'il y a entre tes deux mâchoires et ce qu'il y a entre tes deux jambes, je te garantirai le paradis. Yani, fais attention à ce que tu dis et préserve ta chasteté. Bi'idnillah, tu es dans le bien du moment que tu es dans le tawhid. Ça ne sert à rien d'avoir ça si tu n'as pas de tawhid. Allah, il ne te regarde même pas si tu n'as pas de tawhid. Il n'y a même pas de jugement. C'est direct l'enfer. Tawhid est le suivi du prophète alayhi salam, dans les adorations que tu fais. Même si tu es faible, même si hadi, même si on est tous comme ça. Lakin, fais attention à ton tawhid et à ce que chaque adoration que tu fais, que ce soit une adoration qui a été enseignée par Nabi alayhi salam, sinon on ne la fait pas. C'est une bid'a qui t'éloigne d'Allah. Et ça, c'est tout simplement la signification des deux attestations de foi. Respecte au minimum les deux attestations de foi. Fais ta salat, sors ta zakat, jeûne ton mois de Ramadan, fais le pèlerinage si Allah t'accorde les moyens. Et bidnillah, et sache que tu ne seras sauvé que par la miséricorde d'Allah. Ne crois pas en ayant fait ça que c'est ça qui va te sauver. Car là, ça va te faire tomber dans quelque chose qui est encore plus grave que tout ce qu'on a cité. C'est les péchés du cœur qui sont plus graves que les péchés de l'apparence et des membres. Comme l'ujb, l'orgueil, le kibr, l'ujb, l'autosatisfaction. Et de croire que tes œuvres vont te sauver. Ce qui te sauve, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde. Lakin tes œuvres, c'est ton degré au paradis. Mais Allah n'accorde jamais sa miséricorde à quelqu'un qui n'a pas la ilaha illallah dans le cœur. Pas sur la langue seulement. Dans le cœur. Il faut qu'elle soit dans le cœur. C'est ça qui sauve Allah. Amma tu dis ça, tu dis la ilaha illallah, ça te sauve nahna. Tu es un musulman. Est-ce que tu es un musulman Allah? C'est ça la question que tu dois te poser. Et pour lui donner réponse, c'est en apprenant tawhid. En apprenant cette science de tawhid qui est la science la plus importante. Et donc les gens, Nabi a dit, une fois que les croyants vont traverser le pont, là, il y aura une station avant l'entrée au paradis, dans laquelle ils vont rendre les droits, les uns aux autres. Et une fois qu'ils seront purifiés de toute forme d'injustice, c'est après qu'ils vont aller au paradis. Car le paradis, al-jannatu, hiya ad-daru at-tayyiba, wa hiya ad-daru at-tayyibin. Al-janna, c'est la bonne demeure dans laquelle ne rentrent que les gens bons, purifiés de toute forme de mal, zéro mal. Ils ne rentrent au paradis que quelqu'un qui est parfaitement purifié de toute forme de mal. La purification, elle peut se faire avec les épreuves dans Dunya, les catastrophes, les malheurs par lesquels tu es touché. Elle peut se faire par le châtiment de la tombe. Elle peut se faire par les épreuves de l'attente dans l'au-delà. Elle peut se faire par le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il pardonne à qui il veut. Et si tout ça n'est pas suffisant, la purification pour les monothéistes peut se faire par une durée déterminée de châtiment dans le feu de l'enfer. il y a des mouahidines qui vont aller en enfer. Lakin, ils sortiront. Et ils iront par la suite au paradis. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder à tous le paradis et de nous accorder le degré le plus élevé du paradis. Quand tu penses à la bonté et la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu demandes le degré le plus élevé du paradis. Al-Firdaus l'A'la. Là, quand tu penses à ta faiblesse et tes péchés, tu dis à Allah, sauve-moi juste de l'enfer. Même si tu me réduis en poussière, sauve-moi juste de l'enfer. Là, quand tu regardes la grandeur et la majesté d'Allah et la bonté infinie, tu lui demandes le degré le plus élevé du paradis. Et c'est les serviteurs qu'Allah aime. Barakallahu fikum ya ikhwa. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك